Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Il reste encore 76 kilomètres à parcourir, dont bon nombre de kilomètres d'ascension pour cette 18e étape du Tour de France. Je vous le rappelle, la dernière étape de montagne, c'est aujourd'hui que la différence doit ou ne se fera pas. On verra ça tout à l'heure lorsque les cadors de ce peloton, nommés Vingegaard et Pogacar, se livreront bataille ou ne la livreront pas. Nous verrons ça. 76 kilomètres de l'arrivée, on va faire un nouveau point sur la course. Il y en a un peu partout dans la montée de l'Aubisque. Pierre-Yves, le top course.
9 km 400 d'ascension, 76 km encore à parcourir. Et comme tu le disais, il y en a partout, à tous les étages. Il y a d'abord un groupe de tête qui est formé d'une trentaine d'unités où on retrouve des garçons qui cherchent à aller s'imposer aujourd'hui ou qui cherchent à aller prendre le maillot à poids qui est sur les épaules de Simon Geschke. Et c'est le cas notamment de Giulio Ciccone, qui se trouve en tête avec Hugo Hull, Gorka Izagir et Boke Mollema. Ils sont en train de prendre un petit peu d'avance, 5 secondes, sur un groupe d'une vingtaine d'unités, je vous le disais, où on retrouve des garçons comme Bettiol, Jungel, Stijn Benoot par exemple, ou encore Thibaut Pinot. Il y a des Français, il y a Henrik Maas également, ce qui veut dire que la bataille a lieu aussi pour les places au classement. Derrière, Louis Mentis est sorti du peloton, accompagné par deux coureurs de son équipe Intermarché Groupe Gobert. Résultat, ça fait réagir les Arkea de Quintana qui ne veulent pas perdre des places au classement général. Et puis bien plus loin, il y a des garçons qui souffrent, qui sont lâchés. On pense à Bjerg qui est à près de 8 minutes, ou encore au groupe Fabio Jakobsen qui est entouré de ses équipiers. Baggioli est avec lui, Lampart est avec lui, Florian Sénéchal, Cataneo sont avec lui, Mickaël Honoré également, pour le ramener dans les délais pour qu'il puisse faire les sprints demain et dimanche sur les Champs-Élysées. 9 km encore d'ascension dans l'Aubisque et 75 km à parcourir. La bataille est lancée.
Et attention, parce que Tadej Pogacar n'a plus qu'un seul homme à ses côtés. On rappelle qu'ils ne sont que 4 dans la formation UAE. On rappelle que Bjerg a été distancé rapidement au départ de l'étape et désormais c'est Marc Hirschi. Mais lui, on en a pris l'habitude depuis le départ de ce Tour de France.
Je pense que c'est plutôt Brandon McNulty qui est à côté, non ?
Non.
C'est Marc Hirschi ?
Marc Hirschi distancé.
Oui, Marc Hirschi distancé. Ah oui, je pensais que tu disais que c'était Marc Hirschi qui était à côté de lui. Non, il n'y a plus que Brandon McNulty.
On a vu hier qu'il avait fait un énorme travail, mais est-ce qu'il va réussir aujourd'hui à faire la même chose, Cyril, hein, quand on a beaucoup donné comme ça dans une étape? On a vu tout à l'heure justement Bjerg être en difficulté rapidement au départ de cette étape. Est-ce que McNulty va encore avoir la force pour accompagner son leader aujourd'hui?
Dans l'immédiat, il reste collé à son leader. Le peloton monte d'un rythme quand même un peu moins important que dans le groupe de tête, puisqu'il y a un peu plus d'une minute. Donc pour l'instant, il gère. Il fera voir dans les... Vous savez, ça devient difficile dans les 5 derniers kilomètres. L'Aubisque est très difficile d'un côté comme de l'autre dans les 5 derniers kilomètres. Et en règle générale, c'est là où ça pète. Mais l'avantage de Vingegaard, c'est qu'il a quand même deux hommes dans le groupe de tête.
Oui,
pas n'importe lesquels.
Tout à fait. Mais tu dis ça monte pas trop vite. Et ils ne sont plus que 25 dans le peloton.
Et ils sont retenus à une minute, surtout sous l'impulsion des Arkea Samsic.
Oui, ça a accéléré parce que les coureurs de Intermarché avec Louis Mentis sont sortis. Donc ça a provoqué une réaction. En résultat, ça s'amoindrit dans ce peloton. Ils ne sont plus, que 25 au maximum.
Et ils sont tous en train de boire et de s'asperger d'eau. Il fait encore une fois très chaud aujourd'hui sur les pentes d'Aubisque et dans cette étape. Pierre-Yves, la moto, oui, on va aller voir la moto RMC avec Arnaud, donc dans le col d'Aubisque.
Ça va quand même aujourd'hui sur la route du Tour. C'est vrai qu'il y avait une petite sensation de chaleur ce matin au départ de Lourdes, mais là en altitude quand même, vu qu'on gagne 1700 mètres, on va être à 20 degrés en haut du col d'Aubisque, donc c'est pas désagréable. Il y a une petite fraîcheur qui vient nous chatouiller les bras et qui forcément chatouille également les bras des coureurs. Après voilà, la donnée c'est que c'est quand même un col assez à découvert, avec notamment la station de Gourette au milieu de ce col, donc forcément le soleil tape directement sur les coureurs. Donc voilà, peut-être aussi la raison de la chaleur et du besoin de s'hydrater, de se désaltéré, mais ça va, on est loin de la canicule de ces derniers jours quand même.
Je pense que demain, avec le retour dans la plaine et en direction de Cahors, ça risque de chauffer à nouveau.
Attention, Quintana qui accélère dans le groupe maillot jaune. Lui, il a compris qu'il allait peut-être perdre des places. Les équipiers de Louis Mentis avec leur leader sont partis. On rappelle, au classement général, Nairo Quintana, c'est très serré autour de lui, avec Romain Bardet notamment. On vous redonne le classement pour la 4e place, Nairo Quintana. Pour la 5e, David Godu, qui est seulement 4 secondes derrière. Et puis Louis Mentis est un petit peu plus loin. Il a 1 minute 30 à combler sur Nairo Quintana. Donc voilà, pour ce qui est du placement dans ce top 10, on essaye de faire la différence dès maintenant. Nairo Quintana, peut-être qui a été rattrapé maintenant par le groupe maillot jaune. Il y a d'autres garçons qui sortent actuellement à l'avant. C'est Luis León Sánchez.
Luis León Sánchez de la formation Bahreïn qui a pris quelques mètres d'avance sur le peloton, mais ça ne réagit pas derrière Luis León Sánchez qui vient de rattraper quelques coureurs qui ont été lâchés du groupe de tête qui était tout à l'heure très conséquent avec un peu plus de 35 coureurs, alors que Geschke à son tour va se faire rattraper par Luis León Sánchez et le peloton maillot jaune ne va pas tarder. Geschke qui risque de perdre gros cette ascension. On rappelle qu'il y a 20 points pour celui qui franchira le col de Bisque en tête tout à l'heure.
Oui, je vous l'avais dit qu'il allait sauter parce qu'il a déjà sauté une première fois en essayant d'aller chercher un groupe qui était sorti. Là, les Cofidis, ils ont couru un petit peu à l'envers depuis le départ. Il fallait surtout pas bouger sur le premier coup qui est parti. Le calme, facteur indispensable au succès, messieurs.
Oui, Chicone, lui, est dans le groupe de tête. On rappelle qu'il y aura 20 points pour celui qui franchira le col en tête. Donc, ça lui permettrait de revenir à combien ? Il est à 41.
Oui, mais
20, ça fait 61.
Attention, il n'est pas le seul. Il n'est pas seul dans la bagarre parce que Nelson Poles est là également. Avec et Nelson Poles, il a 37 points. Et Pierre Latour est présent avec 35 points. Thibaut Pinot est présent avec 31 points. Donc, certainement, on va avoir une belle bagarre là dans les prochains
kilomètres. Pour le maillot à poids, on n'a plus beaucoup d'espoir pour le maillot vert puisqu'il est déjà remporté par Van Aert, à moins qu'il ne franchisse pas la ligne d'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées. Mais ce maillot à poids va se jouer dans cette étape, Jérôme.
Mais oui, il va jouer dans cette étape. Alors Geschke a un col hors catégorie d'avance. Il peut se permettre de prendre aucun point sur le premier col si Chicone passait en tête. Il aurait, tu l'as dit Christophe, 3 points d'avance encore. Mais Chicone est toujours à l'avant. Donc s'il passe le deuxième col, Spandel, pas forcément en tête, mais en grappillant quelques points, il pourrait lui chipper le maillot. Après, il faudra voir la configuration du peloton derrière. Est-ce que les favoris vont jouer la victoire ou pas? Parce que si Vingegaard venait à gagner l'étape, il pourrait rafler la mise aussi.
Oui, puisqu'il n'est qu'à 12 points derrière Geschke et ça lui permettrait, s'il le remporte l'étape, d'avoir 72 points, donc bien mieux que Simon Geschke. Mais bref, ça va nous animer jusqu'à la fin de l'étape, cette bataille pour le classement du meilleur grimpeur, ce fameux maillot rouge, maillot blanc à poids rouge, alors que Pogacar a pris la tête du groupe maillot jaune, entouré et donc par des équipiers de Vingegaard. Oui. Il laisse le relais.
Oui, c'était juste pour aller chercher un bidon sur la droite de la route et puis pour prendre aussi une petite éponge. Alors la moto 21, Christophe, et puis la voiture 155. Voilà, on est en train d'annoncer à Radio Tour que les deux motos sont exclues, mais tout de suite là. On rappelle, il y a eu cet accident tout à l'heure avec deux coureurs et Radio Tour vient d'annoncer le numéro des deux motos qui devaient être exclues immédiatement.
Donc exclues jusqu'à la fin du tour ou exclues sur l'étape, hein, parce qu'il y a des sanctions, il y a un barème de sanctions aussi. Hein.
Ouais. Là, on ne sait jamais. Ça peut être une exclusion jusqu'à dimanche.
Ouais, pour l'instant, c'est aujourd'hui. Je pense que ce soir, ils auront une petite convocation et seront la suite de leurs sanctions si c'était que pour cette étape-là ou s'ils vont ramener la moto à Paris un peu plus tôt que les autres.
J'ai hâte de lire l'article du journaliste qui était assis à l'arrière et qui va être obligé de faire un papier sur les supporters au bord de la route.
Je me suis fait virer du Tour de France.
Comment
oui, parce que là, il s'arrête, donc il peut quand même rallier l'arrivée, mais par l'itinéraire hors course. Hein.
Ouais, voilà, exactement. Exactement.
Sympa de dire les gens comme ça.
Soyez prudents, Marco et Arnaud à l'avant.
Marco, il va pas prendre de risque, il est tranquille et puis il a l'expérience, il va pas se faire virer comme ça, il a tous les coordinateurs dans la poche.
Les régulateurs.
C'est sûr. C'est à moi que vous parlez ?
Oui, à vous, messieurs.
Alors, il y a quand même une chose à signaler, c'est que dans le tas, il y a une moto de l'organisation, hein, la moto numéro 19 en l'occurrence, ou 21, pardon. C'est une moto de l'organisation, voilà, qui écope de la petite sanction. Bref, ça, personne n'est épargné, évidemment. Après, il y a tellement de motos en course, hein, et c'est vrai que les commissaires et voilà, tout le jury passe son temps à
oui. Raconte-nous un peu justement quelle sorte de moto. Il y a les motos évidemment du direct, la tienne, tu nous en as parlé l'autre jour. Il y a quelques motos de radio, il y a évidemment la moto de télé, puis il y a aussi des invités qui ont le droit de se balader, plus les régulateurs, plus enfin il y a un paquet de monde. Je sais pas combien il y a de motos au départ du Tour de France.
Ah bah alors là, il faudrait que Marco nous le dise, mais il y en a vraiment un paquet, hein, de motos. Il y a aussi les motos de la gendarmerie. Bon, elles sont évidemment pas impliquées dans ce genre de situation puisqu'elles sont là pour sécuriser la route. Voilà, non, mais oui, il y a beaucoup de motos de l'organisation. Il y a des motos qui, voilà, effectivement, alors c'est pas des motos invitées à proprement dit, mais ce sont des journalistes de la presse quotidienne régionale qui peuvent de temps en temps donc venir sur la route de la course pour faire un petit article. Mais oui, c'est vrai que voilà, parfois il y a des files de motos et vous les voyez de 10, 15 motos derrière les échappées, par exemple. Donc oui, ça fait énormément de monde sur la route. Et voilà, il y a tellement de mouvements aussi. Les motos photographes, par exemple, qui un coup passent derrière, un coup passent devant, repassent derrière, repassent devant, etc. etc. Il y a un moment où c'est normal qu'il y ait des accidents comme ça. C'est normal, je ne sais pas, c'est normal, mais ça, moi, ça me paraît logique. Je me demande même comment c'est pas plus fréquent, finalement, et comment il n'y a pas des choses plus problématiques même qui ne se passent sur la route du Tour.
Ouais. Et en revanche, on rappelle que ta moto à toi se trouve à l'avant quand il n'y a pas d'échappée, et ensuite qu'elle se glisse entre les échappées et le peloton, mais qu'il faut respecter évidemment les ordres des régulateurs dont on disait l'autre jour qu'ils étaient assez sévères et qu'ils ne laissaient pas faire n'importe quoi. Pierre-Yves.
Un petit point sur les différents étages de la fusée du jour. À 72 km de l'arrivée, encore 6 km à parcourir dans l'Aubisque. Un premier groupe emmené par les coureurs de la Trek Segafredo pour Giulio Ciccone pour aller chercher les points du maillot à poids de meilleur grimpeur. Un deuxième groupe à 1 minute 13 avec Louis Mentis qui lui veut essayer de grappiller des places au classement général. Un groupe qui possède actuellement 40 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune emmené par les coéquipiers de David Godu, en l'occurrence Stephen Kung, parce qu'il ne faut pas risquer que Louis Mentis revienne jusqu'à David Godu au classement général. Et puis un groupe
Quintana, on sait où il est resté
dans ce groupe, oui, il a placé une petite accélération, mais il est vite rentré dans le rang, il est dans le groupe maillot jaune. Et puis un groupe Geschke qui a été lâché, lui le porteur du maillot à poids, qui est à 2 minutes 27. Et puis les derniers actuellement, le groupe Eto est en train de se former beaucoup plus loin, actuellement à 6 minutes 7 minutes, Bjerg accompagné de Van Kersbuk.
Alors on rappelle qu'il y a la lutte pour le maillot jaune entre Vingegaard et Pogacar. Geraint Thomas lui est quasiment assuré de monter sur la troisième marche du podium, et puis il y a aussi la bagarre pour la quatrième et cinquième place. Quintana et Godu qui se tiennent en seulement 4 secondes puisque le français a repris du temps hier, notamment sur cette accélération. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'interview de Godu qu'on a passé hier. Il a mis ce petit coup de pétard justement parce que Quintana ne l'avait pas beaucoup aidé dans la montée. Aujourd'hui, ils peuvent se livrer bataille. Une quatrième place, Cyril, c'est important pour une équipe. C'est plus important qu'une cinquième. Il y a des primes plus importantes, ou alors c'est juste le caractère honorifique de cette place.
Oublions le problème des prix. On n'est pas dans le tennis. Non, je suis désolé. Mais là, c'est des histoires de 3-4 000 euros d'écart. Donc là, le match va obligatoirement avoir lieu jusqu'au contre-la-montre s'il ne se passe rien aujourd'hui. Vous savez, bon, il y a que juste quelques secondes, ne serait-ce que dans l'arrivée ici à Otakam, il suffit de coincer un tout petit peu dans le dernier kilomètre et puis vous perdez 10 secondes. Donc le match est lancé et qu'il vaut mieux effectivement être quatrième que cinquième, et mieux être cinquième que 9e, voilà.
C'est la palissade, effectivement. Tiens, on va l'écouter justement, David Godu, qui a répondu aux questions de Arnaud, de Kevin et de Julien ce matin. Au départ de l'étape, David Godu, qui a perdu pas mal de temps hier, mais qui s'est rattrapé, comme il le fait souvent, sur le final. On l'écoute.
forcément fatigué, hein, mais bon, je pense que si vous demandez à tous les coureurs, il n'y en a pas un qui va vous dire qu'il a pas mal aux jambes. Je pense que tout le monde est très très bien fatigué. Et hier, voilà, les deux ont encore fait un chaud devant avec McNulty. Donc voilà, tout le monde a fini mort, je pense, hier. Tout le monde a fini fatigué. Voilà, aujourd'hui on va voir comment ça se passe, comment ça se court, et on va aviser au fur et à mesure de la journée. Le but, c'est d'essayer d'aller chercher Nero au classement général il y a 4 secondes. Maintenant, on est en troisième semaine, on sait très bien comment ça court. Un top 5 sur le tour, pour certains, c'est anecdotique. Pour d'autres, enfin, en tout cas, c'est quand même quelque chose d'énorme déjà, finir 5e sur un Tour de France. Donc le tour, il n'est pas fini. Il reste une grosse étape, peut-être le plus gros, un des plus gros morceaux du Tour de France qui arrive en troisième semaine. Donc faut rester focus et concentré.
Restez focus et concentré, nous dit David Godu, qui est aux portes, enfin qui est même cinquième au classement général, mais il faut évidemment conserver cette place. Lui qui dispute cinquième Tour de France, hein, cinquième Tour de France, sa meilleure place, il l'avait obtenue l'année dernière avec une onzième place. Il avait abandonné en 2020, 13e en 2019 et 34e en 2018 pour son premier tour. Il progresse finalement chaque année, Jérôme, David Godu.
Oui, il progresse chaque année. Heureusement, il a encore une marge de progression, je pense, mais c'est vraiment la première année où il est désigné au départ leader unique. Il a une équipe à son service. Pour l'instant, il répond présent. Marc Madiot avait annoncé comme objectif éventuellement un podium. Il en est pas très loin, alors ça va être difficile de monter sur la troisième marche. Mais comme il l'a dit, un top 5, c'est quand même une très très grosse performance sur le Tour de France. Autant on dit, on se rappelle pas de celui qui a fait aller entre 8e et 15e du Tour de France.
Toi, quand tu as fait 13e, tu t'accrochais pour essayer d'avoir la 12e, la 11e,
ouais, ou alors... Je m'accrochais tout court pour essayer de pas sauter, mais comme dirait Cyril, à part ma mère et moi, il y a personne qui se rappelle que j'ai fait 13e du Tour de France, et il a raison. Mais 5e, c'est différent. Par contre, quand vous faites top 5 d'un grand tour et encore plus du Tour de France, c'est quand même quelque chose qui marque. Alors bien sûr, on aimerait une victoire d'étape pour un Français, mais quand vous êtes si près comme l'est David Godu au classement général, bien sûr qu'il a pas de marge de manœuvre. Romain Bardet hier disait, quand j'ai attaqué, alors qu'il était bien plus loin que David Godu, il disait, quand j'ai attaqué, j'entendais dans le peloton les coureurs crier Bardet pour qu'il ne le laisse pas partir. Donc David Godu, il ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Il doit se concentrer sur son classement général, et le top 5 est bien sûr largement réalisable. Il faut qu'il surveille ceux qui sont juste derrière lui, et Quintana qui est à 3 secondes devant. Après, ça se jouera au chrono entre eux, certainement.
Ne sois pas modeste, Jérôme, quand je vois tous les gens qui crient ton nom au bord de la route, tout le monde se souvient évidemment que tu as fini 13e. Cyril est jaloux d'ailleurs par moment, parce qu'il entend moins Cyril.
Non, dès qu'il met la tête à la fenêtre, alors il roupille beaucoup, hein, pendant l'itinéraire hors course, mais dès qu'il met la tête à la fenêtre, les gens le reconnaissent.
Oh, là, je vais le dire.
Ah, c'est le personnage de là-haut, vous savez, le dessin animé. Je l'ai reconnu.
Je vais le défendre, parce que ça fait 10 jours qu'il est dans ma voiture, il a pas dormi une seule fois. Raconte nos histoires de vieux guerriers, mais on a été bloqué 20 minutes, hein, par un bus dans la montée sur Otakam. Je vous dis pas le nombre de gens en redescendant qui sont arrêtés à la voiture pour faire des photos avec Cyril. Moi, j'étais simplement son chauffeur, hein, Pierre-Yves. J'étais un nobody aujourd'hui.
Non, mais un excellent chauffeur.
Il est bon. C'est le meilleur chauffeur que tu as eu sur la route du Tour.
Au niveau de RMC, oui.
Merci pour moi. Il le trimballe depuis 20 ans. Sympa. Merci. Mais tu vas désormais rester tout le temps avec Jérôme. Ça t'apprendra. Et on te mettra même dans le camion bagage, peut-être, si tu continues.
Il est où le camion bagage?
On n'en a pas. À la différence de nos confrères des grandes radios, nous aussi nous sommes une grande radio, mais nous n'avons pas de camion bagage, mais nous avons le plus beau camion quand même de studio ici. Oui. Et tout le monde est très très jaloux. Si vous voyez qu'ils regardent ça, ils regardent d'en bas, en plus ils sont très très jaloux. 15h23, 70 km de l'arrivée, 4 km du sommet d'Aubisque, et donc 1 minute 6 d'avance pour les hommes de tête. Ils sont combien, Pierre-Yves?
Ils sont une quinzaine. Je vous les donne très rapidement: Tish Benoit, Wout Van Aert, Dani Martinez, Henrik Maas, Carlos Verona, Dylan Teuns, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Alexei Lutsenko, Alexandre Ryabushenko, Andreas Nicknessun, Giulio Ciccone, Hugo Hull, Michael Woods et Nicolas Schultz. Attention, parce que Louis Mentis est en train de revenir à une minute. Mais on va voir la grande bagarre dans quelques instants pour le gain du maillot de meilleur grimpeur. Le maillot à poids va être en jeu dans quelques instants avec des garçons comme Giulio Ciccone, comme Nelson Poles ou encore Thibaut Pinot. Quoique Nelson Poles n'est plus dans le groupe de tête, donc bagarre entre Ciccone très certainement et Thibaut Pinot dans quelques instants.
Louis Mentis, qui était ce matin 7e au classement général à 9,24, soit 3 secondes seulement derrière Romain Bardet. On va voir si le français de la formation DSM réagit tout à l'heure, ou s'il reste au contact du groupe maillot jaune. 15h24, on se retrouve dans quelques instants sur la route du Tour sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Au cœur de cette 18e étape du Tour de France, la dernière étape de montagne, la dernière occasion pour Pogacar de reprendre un peu de temps avant le contre-la-montre de samedi à Rocamadour, et ses 40 km qui seront vraiment le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France. 69 km encore à parcourir. Nous sommes dans les derniers kilomètres de l'ascension du col d'Aubisque, Pierre-Yves, avec donc une situation pour l'instant assez claire depuis quelques minutes. Étape course.
Tu trouves que c'est assez clair, toi? Je trouve qu'il y en a quand même un peu partout et il faut suivre attentivement parce qu'il y a des garçons qui d'un seul coup prennent justement un coup de buis et disparaissent d'un groupe. 70 km à parcourir, 3 km encore dans l'ascension de l'Aubisque pour les hommes de tête, un groupe d'une quinzaine d'unités, mais certains ne sont pas très loin. À une minute, il y a Louis Mentis qui essaye de rentrer. Lui, il est à la bagarre pour surtout reprendre des places au classement général. 1 minute 20 derrière le groupe maillot jaune. Ça veut dire que pour l'instant, Louis Mentis fait une bonne opération. Il est accompagné de Dombrovski, le coureur de l'équipe Astana. Beaucoup plus loin, à 4:30, le groupe Geschke. Ça veut dire que le porteur du maillot à pois va perdre énormément dans cette montée de l'Aubisque et peut-être aussi dans toute cette étape. Son maillot à pois ne tient plus qu'à un fil. Et puis beaucoup plus loin, à une dizaine de minutes, Bjerg, notamment équipier de Pogacar, qui n'est plus protégé que par Brandon McNulty dans le groupe maillot jaune.
La moto RMC se trouve à l'avant de la course, Arnaud et Marco qui sont sur notre moto au soleil cet après-midi.
Tout à fait, même bien à l'avant de la course. Je vous rappelle qu'on cherche toujours le président de la République qu'on n'a pas encore trouvé dans la montagne. Je peux vous donner quand même quelques petites indications sur le début de la descente de ce col d'Aubisque. Attention, descente un petit peu périlleuse. Et puis vous remarquerez à un moment, on a un tunnel, peut-être Jérôme et Cyril s'en souviennent, qui ont dû arpenter ce col à de nombreuses reprises. On a un tunnel sans aucune visibilité. Non seulement ça tourne, mais en plus il n'y a pas de visibilité. C'est complètement noir dedans, c'est vraiment taillé dans la roche. Même Marco a été obligé de s'arrêter au milieu parce qu'il n'y voyait plus rien. Donc attention, parce que vous savez, c'est un petit peu comme le tunnel du Grand Prix de Monaco. Quand les pilotes rentrent dedans, les pilotes de Formule 1, ils ne voient strictement rien parce qu'ils sont éblouis par le noir, vu qu'ils ont la lumière du soleil juste avant. C'est un petit peu la même chose, sauf qu'en plus ça tourne. Donc attention dans ce début de descente pour les coureurs dans quelques instants.
Merci Arnaud pour ces précisions. 69 km de l'arrivée, on regarde un peu ce qui se passe dans le groupe maillot jaune avec toujours les principaux cadors et notamment Vingegaard, le maillot jaune, qui est accompagné de deux ou trois équipiers encore. Il y a encore du beau monde autour de Vingegaard.
Il y a encore du monde. Hein, Van Hooydonk, Kuss et Vingegaard. Pogacar a toujours McNulty. On voit traîner un peu en queue de ce groupe Adam Yates, hein, il est malade depuis quelques jours. Il a pas l'air au mieux. Il y en a un qui fait une bonne opération pour le moment, c'est Mentis quand même. Ouais. Il avait 1 minute 30 de retard à peu près sur Godu et Quintana. Pour l'instant, il a refait son retard virtuellement. Il est quasiment dans les mêmes temps que David Godu et Nairo Quintana.
Et il vient de rentrer à l'instant sur Nelson Paules, qui était sorti du groupe de tête, qui lui cherchait aussi à gagner des points aujourd'hui pour le maillot à pois, puisqu'il était bien classé. Nelson Paules, il était en 6e position avec seulement 27 points de retard sur Simon Geschke. La bagarre devant, elle va avoir lieu entre Giulio Ciccone et Thibaut Pinot, si Thibaut Pinot décide d'aller aussi chercher ce maillot à pois, ou alors est-ce qu'il vise simplement la victoire d'étape et il faut peut-être pas courir deux lièvres à la fois. C'est ça le problème.
C'est toujours la difficulté. Est-ce que il mise tout sur la victoire d'étape en faisant une croix sur le maillot à pois au risque de ne pas gagner finalement au bout de la journée, n'avoir rien eu, ou est-ce qu'il dit je vais prendre les points, mais s'il termine l'étape deuxième ou troisième, qu'il lui manque juste un peu de jus, il va peut-être se dire mince, si j'avais pas fait les poids, j'aurais peut-être pu gagner l'étape, etc. On verra ce qu'il va faire. Là, on va
bien sûr. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire là?
Jouer
les poids ou la victoire d'étape?
Moi, je miserais tout sur la victoire d'étape parce que sur le papier, c'est le meilleur grimpeur. Après, c'est lui qui doit décider avec ses jambes du moment, là, maintenant, dans l'échappée, comment il sent. S'il se sent un peu juste, faut qu'il aille faire les points. Mais il est face à Ciccone, qui est quand même bien explosif en haut des bosses, qui lui a l'air vraiment motivé par ce maillot à poids. Ça va pas être simple.
Cyril, tu lui conseillerais quoi, toi?
assurer le minimum dans un premier temps. De toute façon, la victoire de l'étape se fera après à la pédale.
Donc aller chercher les points.
Il faut aller chercher les points. Là,
ouais. Alors comment on fait dans ces cas-là s'il y a deux directeurs sportifs qui n'ont pas le même avis ici, Jérôme?
Il y a un taulier qui décide.
D'accord, ok.
Donc il ira faire les points. Vous savez, moi je suis le sous-fifre.
Le chauffeur, le sous-fifre, on a bien compris.
Non, mais on va voir, qui lui parle à l'oreillette. Tain,
imagine un seul instant que tu te délaisses d'une opportunité d'aller chercher le maillot à poids et après tu te fais larguer dans la dernière ascension. T'as une poignée de bonne mine. Hein.
Alors s'il bagarre avec Chicone et qu'il pète à 2 km du sommet, tu viendras pas critiquer qu'il a perdu du jus avant, on est d'accord?
Mais absolument pas, mon cher, okay. Absolument pas.
On précise.
De toute façon, rappelle-toi que nous sommes encore loin de l'arrivée. Nous sommes que dans la première difficulté et que faut laisser la course vivre. Et vous allez voir qu'il va se passer bien des choses avant d'arriver au pied de Hautacam.
Et on rappelle que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Hein,
oui, c'est très important. C'est à la fin de la poire. De la poire.
La fin de la poire. Reprenons un peu de poire, Cyril. Alors, Simon Geschke, toujours en tête au classement du meilleur grimpeur avec 64 points. Jonas Vingegaard, deuxième avec 52 points. Tadej Pogacar, troisième avec 46 points. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, dans la bataille pour le maillot à poids. Mais ça se jouera en fin de journée. Giulio Ciccone est à 41 points. Et puis, Thibaut Pinot à 10 points de retard sur Giulio Ciccone. Donc, de toute façon, comme on imagine que les deux vont aller bagarrer maintenant dans 1,5 km, il peut grappiller un petit peu de points. Mais surtout, il peut s'apercevoir que Giulio Ciccone lui passe devant et qu'il y a presque plus aucune chance d'aller gagner le maillot à poids aussi.
Oui, alors, mais comme a dit Cyril, il reste quand même encore deux cols après. Faut qu'il regarde de quelle manière Ciccone va essayer d'aller chercher ses points. Est-ce qu'il va attaquer là dans les mètres à venir? Ils vont bientôt être dans le dernier kilomètre de cette ascension. Donc, est-ce que ça va être une attaque très longue ou vraiment vous laissez beaucoup de jus dans la bataille? Ou alors, est-ce que Ciccone va attendre les 200, 300 derniers mètres où là, vous pouvez faire l'effort, vous tapez pas trop dans vos réserves? Si vous faites un effort d'un kilomètre qui dure 2 à 3 minutes, là c'est une autre histoire. Faudra voir comment Ciccone, c'est Ciccone hein, qui a la clé pour Thibaut Pinot. Faut qu'il pointe Ciccone, qu'il essaye d'aller marquer le plus de points en haut de ce col sans gaspiller trop d'efforts.
Ce qui serait amusant, Cyril, c'est que ce soir on ait deux garçons qui se tiennent en un point par exemple, sachant que demain il y aura deux points à distribuer et dimanche il y en aura un. Ça pourrait être assez drôle.
Ça pourrait être assez drôle, mais pour l'instant on va peut-être attendre les 300 derniers mètres et l'accélération vraiment de Ciccone.
Thibaut Pinot est loin. Hein.
Oui, mais là, on est à deux bornes. Hein. Non, moi, je pense qu'il faut faire l'effort sur cette ascension au sommet pour Thibaut Pinot, pour aller chercher les points. Il n'a aucune certitude d'être le meilleur de ce groupe et donc d'aller chercher la gagne. Maintenant, s'il va prendre les points là et qu'il peut les prendre sur le col suivant, eh bien, il pourra se retrouver avec une avance suffisante pour rapporter le maillot.
Spandel, il y aura 10 points à prendre, donc ça sera encore assez serré très certainement.
Et on va noter un petit truc, il n'y a aucun coureur Groupama FDJ qui s'est fait distancer pour l'instant.
Oui,
ils sont 5 à côté de David Gaudu, donc 6 coureurs plus 2 à l'avant, les 8 sont là entre l'échappée et le peloton. Pour l'instant ils tournent très bien les coureurs Groupama FDJ.
C'est pas une étape qui va très vite pour le moment, puisque je vous parle de Bjerg, de Van Kersbulk et de Zeitz qui sont à 11-10 minutes, mais Jakobsen lui est à 8 minutes, mais sinon le Gruppetto est à 6 minutes seulement pour l'instant du peloton, de la tête de course même, donc pas très très loin en fait, puisque le groupe maillot jaune est à 3 minutes, donc le groupe Eto est à 3 minutes derrière.
Alors que Thibaut Pinot s'est rapproché de la tête du groupe d'échappée, on est à 870 mètres maintenant du passage au col d'Aubis, qu'il est accompagné de l'un de ses équipiers, Thibaut Pinot,
Valentin
Madouas, qui est là, et c'est Wout van Aert qui emmène le groupe. Ciccone se trouve dans sa roue, me semble-t-il, hein, c'est lui.
Oui, exactement. Oui, c'est lui.
Accélérer dans quelques instants.
Oui, on regarde derrière ce qui se passe et on va sans doute accélérer. Louis Mentis, lui, est toujours en chasse-patate derrière à 54 secondes.
Se rapproche de la tête de course. 700 mètres encore avant le passage au col d'Aubis. Qu'on rappelle, c'est un col classé hors catégorie. Il y aura donc 20 points pour celui qui franchira la ligne en tête dans quelques secondes. Mentis qui se rapproche à moins d'une minute désormais de la tête de course.
Oui, il aurait pu lui aussi aller chercher des points pour le maillot de meilleur grimpeur, mais ça sera un petit peu tard son retour. Et puis derrière, il faudra essayer de rentrer. Ce sera pas simple non plus. 55 secondes alors qu'on va basculer dans 500 mètres au sommet de l'Aubis. Lobisque pour ce groupe de tête, toujours emmené par Wout Van Aert, avec des assistants là qui redonnent des bidons à Valentin Madouas et à Thibaut Pinot. Il est en quatrième position actuellement, Thibaut Pinot. On surveille ce qui se passe avec Alexei Lutsenko et Ryabushenko qui sont là aussi pour l'équipe Astana. Il y a un des coureurs Astana qui est en troisième position. Wout Van Aert toujours en tête de ce petit groupe. Louis Mentis qui observe de loin ce qui se passe devant. Il les voit actuellement. Il est accompagné de Christopher Hamilton. On va surveiller les 400 derniers mètres, le tour de piste, pour faire la différence, aller chercher des poids au classement de meilleurs grimpeurs. Thibaut Pinot qui se dresse sur ses pédales, qui revient à hauteur de la roue arrière de Giulio Ciccone. Wout Van Aert toujours en tête. Lui, il n'a rien à aller chercher et il va continuer à mener tranquillement son train. Le groupe maillot jaune est derrière à 3 minutes 10 avec son équipier Jonas Vingegaard. Un maillot jaune à 3 minutes, un maillot vert en tête. Plus que 250 mètres désormais avec Thibaut Pinot qui surveille l'accélération sans doute de Giulio Ciccone. Pour l'instant, il se restaure. Alors ça, c'est peut-être l'indice qu'il ne va pas aller chercher les points parce qu'il est en train d'ouvrir une barre énergétique là et de se restaurer. Il la remet dans sa poche à l'instant. Peut-être que c'était du flan pour donner une impression. Il n'y a plus beaucoup maintenant de temps pour ce col de Lobisque. 150 mètres exactement. Giulio Ciccone en deuxième position. Thibaut Pinot et Valentin Madouas qui accélèrent sur le côté. Est-ce que c'est la stratégie? Non, pas du tout. C'est pour se replacer tranquillement. Thibaut Pinot qui a vu maintenant l'accélération de Giulio Ciccone. Est-ce qu'il va essayer d'aller chercher les points? Il n'accélère pas franchement. Thibaut Pinot, il laisse Giulio Ciccone aller passer en tête au sommet de l'Aubisque et prendre la deuxième place. Il n'a pas bagarré. Il a laissé Wout Van Aert en troisième position. Ça veut dire, si on fait les comptes, que Giulio Ciccone, qui avait 10 points d'avance sur Thibaut Pinot, en a maintenant 15 d'avance sur le Français, puisqu'il en a pris 20 et que Thibaut Pinot en a pris 15. En revanche, si on fait toujours les calculs, eh bien, Giulio Ciccone, voilà, était à 41. Il est à 61 maintenant.
À 3 points du maillot à poids de Geschke. Ce maillot ne tient plus que par un fil pour Geschke, qui a perdu gros aujourd'hui dans cette étape et qui va sans doute perdre le maillot, parce que a priori ces hommes-là devraient encore prendre des points tout à l'heure dans la deuxième ascension du jour.
En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les directeurs sportifs de la Groupama FDJ écoutent plus Jérôme Coppel que Cyril Guimard.
Eh oui, voilà.
Enfin des connaisseurs.
Non. Comment ça?
Ben oui, il n'a pas cherché à aller prendre des points, Thibaut Pinot.
Ben si, il va faire deux.
Oui, mais bon, il n'a pas fait la bagarre avec Ciccone.
Il en a perdu 5.
Non, mais attendez, sauter que Thibaut Pinot arrive à sauter au sprint Ciccone, c'est quand même difficile.
Non, mais il n'y a pas eu sprint là.
Non, il n'y a pas eu sprint.
Bah donc il a gardé des forces.
Il était battu d'avance parce que Ciccone est plus rapide que lui.
Les points, ni l'un ni l'autre ne se sont fait mal aux jambes. Donc match dans le prochain.
Mais il n'y aura que 10 points à aller chercher. Hein.
Mais une chose est certaine, c'est qu'il a fait le grimpeur.
Il a fait le grimpeur puisqu'il a pris...
Là, sinon, il ne vient pas faire deux.
Oui.
Racontez pas de bêtises.
Oui. Il a pris quelques points. Le ton maillot jaune qui s'approche à son tour du passage au col d'Aubisque, avec toujours les équipiers de Vingegaard qui emmènent le maillot jaune. Pogacar est dans la roue de Vingegaard accompagné de McNulty derrière les Ineos. C'est encore les coureurs de la formation Groupama FDJ qui effectivement sont assez nombreux encore aujourd'hui. On a également Quintana de la formation Arkea. Ça va passer tranquille avec un retard de combien sur
3 minutes 15 et il me semble apercevoir toujours Adam Yates hein, aux côtés de Geraint Thomas
et Pidcock aussi.
Et Pidcock, donc ça veut dire qu'il va mieux Adam Yates, lui qui avait perdu près de 10 minutes dans l'étape d'hier et toujours là, mais la grande bagarre n'a pas commencé hein, pour ce qui est de la lutte pour le maillot jaune.
Alors oui, c'est normal d'être là à ce niveau-là parce que pour l'instant le peloton est à une intensité de sénateur hein.
Oui, ça roule pas très fort.
Ça va pas durer.
Dans ce peloton maillot jaune, il garde des forces pour la grande bagarre et peut-être notamment pour le prochain col de Spandel dont on vous parlait tout à l'heure, qui est inédit sur les routes du Tour de France. Même si la plupart des coureurs, Jérôme, j'imagine, ont dû reconnaître ce col, ils savent à quoi ça ressemble. Même s'ils n'ont pas franchi à vélo.
Oui, en course.
Les grands patrons.
Ouais. Oui. Bien sûr que les favoris du Tour de France ont été reconnaître cette étape. C'est peut-être la plus importante du Tour, bien sûr la plus importante dans les Pyrénées. Donc ils connaissent très bien ce col, cette montée, mais on l'a dit, et Arnaud nous en parlera un peu plus tout à l'heure, la descente. descente est quasiment aussi dure que la montée. C'est vraiment une toute petite route, assez technique cette descente. Faudra être vraiment très très vigilant. Donc la montée est très raide sur une petite route, la descente aussi. Faudra attention de ne pas partir à la faute dans la descente du deuxième col.
Si on veut avoir une petite indication sur l'ascension tout à l'heure du col de Spandel, eh bien on peut vous dire que Pierre Roland, qui a été le plus rapide dans cette reconnaissance pour les coureurs de l'équipe BNB, c'était en mai dernier. Ils étaient venus ici dans les Pyrénées. Il avait mis 32 minutes pour l'ascension. Franck Bonamont avait mis 36 minutes. Ça nous donne une petite idée. Il y aura une petite demi-heure de grimpette dans quelques minutes maintenant pour découvrir ce col de Spandel.
Très bien, le peloton maillot jaune est passé au col.
Tout à fait, et on est dans la descente désormais.
Eh bien, on va s'interrompre quelques instants, toujours en direction de Otakam. Il reste deux difficultés majeures à franchir, donc le col de Spandel et l'ascension tout à l'heure de Otakam. A tout de suite sur la route du Tour sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Nous sommes à moins de 60 km de l'arrivée de cette 18e étape du Tour de France dans le final, enfin pas vraiment le final, puisqu'il reste encore deux ascensions à escalader pour les coureurs du Tour de France. Ils ont franchi le col d'Aubisque avec donc un groupe en tête, avec une grosse minute d'avance sur Mentiès. Le peloton maillot jaune n'était pas plus loin, à 3 minutes 33. Nous sommes actuellement dans la descente du col d'Aubisque. Je ne sais pas si... non, je crois que la moto RMC est un peu plus loin, peut-être au pied de la descente. Arnaud, peut-être un petit point ? Non, il est parti.
Excuse-moi Christophe, oui. J'avais le si, je suis là, j'avais le retour baissé. Est-ce que tu peux répéter ta question?
Non, je voulais te demander comment se passait cette descente du col d'Aubisque.
Bon, écoute, c'est une descente, voilà. Hein, c'est une descente un petit peu spéciale parce que en fait, ça remonte dans le milieu de la descente. Je vous avais parlé de ce tunnel. On a d'ailleurs annoncé sur Radio Tour de potentielles difficultés dans ce tunnel. J'imagine que c'est passé pour l'instant avec pas trop de problèmes pour les coureurs. Donc voilà. Donc ça va remonter. Ensuite, ça redescendra. Mais vous allez voir. Par contre, on descend et immédiatement, il n'y a pas un mètre de vallée. On va réattaquer le col des Spandel tout à l'heure. Donc pour les coureurs, vous allez voir, ça va être un sacré casse-pâte et un final en dents de scie, ça c'est une certitude. Et le col des Spandel, je suis au bas là actuellement pour tout vous dire, ça a l'air d'être un sacré chantier ça aussi.
Ouais. Thierry Couvenou en parle en ces termes, en disant que l'enchaînement entre l'Aubisque et Otakam est terrible, extrêmement difficile. Il n'y a pas de vallée avant la montée finale, ce n'est pas le jour pour avoir un jour sans. On n'est pas à l'abri d'avoir un retournement de situation sur ce genre d'étape, donc voilà, en dernière étape de montagne après 3 semaines de course, c'est un col qui peut être très piégeux pour les coureurs fatigués. On va voir qui est fatigué dans quelques minutes. Ça commence à dodeliner de la tête un peu et des épaules chez certains. 58 km encore à parcourir. Louis Mentis n'a pas réussi à rentrer dans la descente. On le disait, il n'y a quasiment pas de descente. C'est en train de remonter là pour les coureurs de tête. Et un coureur comme Henrik Maas a été distancé de ce groupe de tête alors qu'il est leader de l'équipe Movistar. Oui. Comme quoi, il y a des garçons qui sont en troisième semaine un peu fatigués.
Oui, mais il a dû être distancé dans la descente. Comme disait Arnaud, ça va remonter. En fait, ils vont chercher le col du Soulor avant de vraiment plonger, de faire la longue descente. Donc là, ils avaient un tout petit bout de descente après l'Aubisque. Ils remontent chercher le sommet du Soulor avant de vraiment redescendre et d'aller chercher la deuxième difficulté répertoriée. On sait que Henrik Maas, c'est pas un grand descendeur. Mentis non plus. D'ailleurs, il a perdu du temps dans le petit bout de descente avant de remonter sur le Soulor. Sachant que la descente après le Soulor est vraiment très très longue, s'il bouge pas un peu plus de temps que ça avant de basculer sous l'or, ça va être compliqué pour Mentis de rentrer.
Voilà, et ce col donc de l'Aubisque est terminé. Le col de Spandel, lui, dont le sommet sera à 33 km de l'arrivée, c'est une montée de 10 km 300 à 8,3%, donc 43 km, on y sera dans 15 km désormais. Giulio Ciccone et ses équipiers qui font les efforts à l'avant pour aller chercher le maillot de meilleur grimpeur ce soir sur le podium protocolaire.
On va faire un point d'ailleurs sur ce classement du meilleur grimpeur en plein cours de cette étape. Donc toujours Simon Geschke qui garde pour l'instant son maillot à poids pour 3 petits points. Il est à 64 points. Ciccone est donc à 61 points. Le troisième, c'est Vingegaard avec 52 points. Il n'a pas marqué de points là au passage d'Aubisque. Et puis donc quatrième à égalité, on trouve Tadej Pogacar et Thibaut Pinot qui sont à 46 points. Donc rien n'est encore fait pour ce maillot à poids parce qu'on rappelle que si la bagarre se déclenche dans la fin de l'étape, Pogacar et Vingegaard pourraient prendre
deux gros points. Mais Geschke, lui, est en grosse difficulté pour conserver ce maillot à poids rouge ce soir.
Ouais, très certainement, Giulio Ciccone est vraiment le mieux placé maintenant pour aller l'emporter. Il nous avait impressionné, Giulio Ciccone, il y a maintenant 3 ans, en 2019, en portant le maillot jaune pendant 2 jours. Il avait terminé 31e du classement général. Et puis, c'est un excellent grimpeur. Hein. Il a gagné le Grand Prix de la Montagne la même année sur le Tour d'Italie 2019. L'ancien coureur de la Bardiani, aujourd'hui chez Trek Segafredo, et qui est emmené actuellement par
Mollema,
qui est revenu, qui était sorti du groupe, qui avait été sorti et qui est rentré. C'est pour ça que j'avais un petit doute, mais c'est bien lui, Mollema, qui emmène actuellement Mollema, vainqueur d'une étape du Tour de France également. C'était l'année dernière. Exactement. Mm-hmm.
Cette équipe Trek Segafredo, Jérôme, on en parle assez peu, mais elle est présente quasiment tous les jours depuis le départ de ce Tour de France. Elle se montre. Il n'y a pas de grands favoris pour le classement général, mais il y a des garçons qui s'accrochent et qui bataillent tous les jours.
Bien sûr, et puis ils ont déjà une victoire d'étape avec Mats Pedersen qui a gagné son étape, qui est souvent placé dans les sprints. On a beaucoup vu Quinn Simons, hein, des coureurs les plus jeunes de ce Tour de France. Mollema et voilà, bagarre souvent. Là, il est en rôle d'équipier. Ciccone, dans ce qu'il sait faire, dans ses caractéristiques, il joue pas le classement général. Il va viser les étapes. Là, il essaye d'aller chercher son maillot à poids. On a vu Tony Galopin aussi échapper sur l'étape avec le mur de Péguer. Voilà, collectivement, dans l'équipe, ils ont personne pour aller jouer le classement général, mais collectivement, ils apportent tous quelque chose. Et
pour moi, c'est le plus beau collectif sur ce Tour de France derrière la Jumbo.
Le plus homogène, c'est vrai. Alors,
ils sont très loin au classement général.
Oui, ils ont personne pour le 14e. Classement général. Ils sont vraiment là en chasseurs d'étapes. Hein. Ouais. Et tous sur le papier ont les moyens d'aller chercher une étape. Pour l'instant, ils en ont qu'une dans la besace avec Mats Pedersen, mais ils peuvent tous gagner leur petite étape.
Ouais, résultat, ils ont dynamisé et parfois dynamité aussi ce Tour de France. Ça a permis de pas trop se reposer sur nos lauriers, d'avoir des échappées publicitaires.
Ouais, et puis ça donne toujours une dynamique dans l'équipe quand vous en avez un qui part dans une échappée, même si on sait que l'échappée va pas aller au bout. Bah là, on rentre dans le bus, on est content, on le félicite, lui il est content parce qu'il a passé la journée à l'avant, l'équipe est contente. La fois d'après, on dit ok, bah moi je vais essayer d'aller faire pareil. Et puis un jour, comme Mats Pedersen, vous êtes dans la bonne, vous provoquez la décision et vous gagnez votre étape.
Alors que Louis Mentias, qui était revenu tout à l'heure à moins de 50 secondes du groupe d'échappée, bien connaît un moment un peu difficile là. Il est à 1:25 de la tête de course. Être en chasse-patate comme ça, c'est jamais une position très confortable, Jérôme.
Non, et c'est pas impossible qu'il perde tout, hein, Louis Mentias aujourd'hui. Alors, il a perdu un petit peu de temps dans la descente de l'Aubisque avant de remonter vers le Soulor, un col non répertorié, mais c'est surtout l'accélération de Mollema qui lui a fait perdre encore une vingtaine de secondes. Et dans la descente, vraiment là, qui va les emmener vers la deuxième difficulté, il va perdre encore beaucoup de temps. Attention à ce qu'il ne se fasse pas rattraper par le groupe maillot jaune dans le deuxième col ou surtout dans Otaka, mais qu'il ne prenne pas un retour de nivelle parce qu'il pourrait tout perdre.
Ok, mais pour l'instant, quand on regarde au classement, il a quand même 3:30 d'avance sur le groupe maillot jaune. Il est en train de prendre la quatrième place.
Oui, il est avec Chris Hamilton qui ne roule pas. Il reste 60 km. Il reste encore les deux plus grosses difficultés de l'étape. Attention, c'est encore moins 55
km. Mauvais calcul pour toi.
Alors, s'il reste en chasse patate et que la bagarre se déclenche derrière, mauvais calcul, je pense. Mais comme a dit Cyril, c'est à la fin de la foire qu'on compte les boosts. Peut-être qu'il arrivera. Faut qu'il conserve au moins 1:30 d'avance, 1:35 même sur Quintana, Godu, etc. Pour que son entreprise vaille la peine et qu'il remonte à la quatrième place du général.
Très bien, 54 km de l'arrivée. On refait un petit point avec toi, Pierre-Yves, un petit top course. Allez, c'est parti.
Le top course à 54 km de l'arrivée avec en tête de cette étape, on va prendre son nom, tiens, juste pour le citer, celui qui roule actuellement devant se nomme, au moment où on se parle, Bauke Mollema. Il roule pour Giulio Ciccone qui est à la chasse au maillot de meilleur grimpeur. Dans ce groupe, on retrouve également des garçons comme Dylan Teuns, Rigoberto Urán, Valentin Madouas ou encore Thibaut Pinot. On l'a cité tout à l'heure, Thibaut Pinot qui lui aussi pourrait pourquoi pas aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Alexei Lutsenko est dans ce groupe également. On retrouve Hugo Hull, Michael Woods ou encore Nicolas Schutz, Danny Martinez, Wout van Aert et Tish Benoit. Un peu plus loin à 1:28, le groupe Mentis, ou surtout Mentis un petit peu seul, mais il grappille pour l'instant virtuellement des places au classement général. Et puis à 4:10, ça roule pas vite, ça roule tranquillement dans le groupe maillot jaune pour le moment. La bataille va se déclarer un petit peu plus tard, peut-être dans le col de Spandel qui s'approche tranquillement.
Et Mika
RMC
Intégral Tour.
Et Mika nous demande, il est où ce Dédé? Ben oui, on a perdu notre Dédé, on essaye de le joindre, mais il est dans la descente et les relais aujourd'hui ne sont pas très nombreux. Peut-être qu'il arrose.
Il n'y a pas beaucoup de réseau, les amis.
Il n'y a pas beaucoup de réseau. Heureusement que tu as la moto.
Moi, je l'ai retrouvé il y a quelques minutes, il était au pied du col de Spandel, Dédé.
Fais-lui faire un tour de moto.
Très, très mal.
Hein?
Pardon?
Tu devrais le mettre à l'arrière avec Marco, mais je pense que la moto cabrerait peut-être, non?
C'est vrai qu'on aurait pu faire ça, j'y ai même pas pensé. Ah, allez, on va arriver à trouver.
Je te verrais bien dans la grosse voiture jaune de Dédé, ah, tu serais magnifique, Arnaud.
Ah bah là, je peux te dire qu'elle va vite, là. Elle va vite, la grosse voiture jaune de Dédé. Là, ça rigole pas, là. Il y en a deux même aujourd'hui. Voilà.
Deux motos.
On n'a pas de nouvelles.
Et toujours pas de président, en revanche. Je sais pas où il est celui-là.
Non. Non, mais je suis assez. Marco a l'air assez confiant sur le fait qu'on le trouve. Donc,
c'est pas rassurant, ça. Quand Marco est confiant. Mais où est la voiture numéro 1? Où est la voiture numéro 1? Parce que c'est celle-là qu'il faut suivre en général. La voiture rouge de Christian Prudhomme.
Bah tiens, il est
ça. Ah bon, Pierre-Yves. Je crois que t'en apprends une belle là, Marco. Là. Mais ouais. Non, la voiture numéro 1, elle est là où elle doit être, c'est-à-dire avec les échappées pour l'instant, ou en tout cas, si elle y est plus depuis quelques minutes, elle y était jusqu'en haut du col d'Aubisque. Donc,
Voilà. Vous l'avez plus en visu.
T'avais réussi à le retrouver, toi, le président?
Oui, tout à fait. Avec Marco, nous étions à côté de François Hollande à l'époque.
Moi, j'ai rattrapé le général de Gaulle, hein, donc qu'est-ce que tu veux?
Ah oui, on n'est pas dans la même histoire, oui, effectivement. Et on avait rattrapé Tom Cruise aussi.
Tom Cruise, oui, ouais, qui avait refusé de descendre la vitre.
Exactement, c'était il y a quelques années, Tom Cruise qui nous faisait coucou, mais c'est pas ça qu'on attendait. On voulait quelques mots, évidemment, de Tom Cruise qui nous avait pas répondu. Bon souvenir avec Marco aussi.
Voilà. Mais pourtant.
Le général de Gaulle t'avait répondu, toi?
Non, mais c'est blague. Général de Gaulle. Je sais même pas. Non, Cyril l'a connu, le général sur les routes
du Tour? Non, c'est le général de Gaulle qui a connu Cyril. C'est différent.
Alain Delon.
Bien sûr.
Non, je n'ai pas eu cette chance. Malheureusement, voilà, je sais que sa femme a été un moment à Paimpon.
À Paimpon, avec les pompiers?
Non, la ville de Paimpon, dans la forêt de Brocéliande, au moment où lui, il est parti en Angleterre.
Tu nous parles de Tante Yvonne?
Oui.
Très bien.
Il a donc connu Tante Yvonne.
On l'interroge sur Charles de Gaulle et comme par hasard, il nous parle de Tante Yvonne.
Non, j'ai vu la maison. Non, je connais la maison où elle a vécu.
Ah, d'accord, très bien.
Très bien. 15h56, de quoi on peut parler là? Qu'est-ce qui se passe là? Tu me montres une image là dans la descente du Rhône.
Je suis la course, c'est Arkéa Samsi qui est en train de...
Il en faut toujours un.
Arkéa Samsi qui est en train de faire la descente dans le groupe Maillot Jaune avec Quintana dans la roue. On sait que Quintana descend très bien. Ils vont essayer de reprendre du temps à Mentis qui menace la quatrième place de Quintana.
Pour Mentis, c'est fini pour le classement général.
Oh là 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 là. Les sentences tombent les unes après les autres cet après-midi. Oui, mais attention, on fera les comptes tout à l'heure quand même. Hein.
Oui, mais vous pouvez les faire. C'est comme pour Geschke. Il y a des efforts qu'il ne faut pas faire. Et là, notre petit Menschkis, il va se faire manger avant la fin de la foire.
Je voudrais d'ailleurs apporter un démenti. On a donné une mauvaise information tout à l'heure à l'antenne.
Alors, c'était pas DSM, c'était...
Non, c'est pas ça. C'est qu'on a annoncé que notre producteur Bruno Fontaine faisait la sieste. Or, ce n'était pas vrai du tout,
Christophe. Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai, il faisait de la luge d'été.
Non, c'est pire.
De la luge d'été. Je vais d'ailleurs mettre immédiatement cette photo sur... RMC Live, comme ça vous pourrez vous rendre compte donc de notre producteur et Adrien que je n'ai pas cité Fache. L'autre jour, Adrien oui. Qui est une sorte d'emploi de...
Bah, il va avoir beaucoup de travail aujourd'hui parce qu'il va avoir plein de duplex avec le président.
Mais il fait des duplex parce qu'il a vu que la jolie reportrice de BFM venait, autrement il voulait pas faire du tout de duplex, notre ami Adrien qui nous accompagne depuis le début de ce Tour de France.
Ce qui est bien avec toi, Christophe, c'est
dès qu'il y a des
choses qu'il faut pas dire, tu les répète.
Très bien. 15h57, on se retrouve dans quelques minutes, juste après les infos de 16h. On va vous mettre la photo de Bruno Fontaine et d'Adrien Fache dans la descente en luge. Franchement, super position. On aurait dit des coureurs cyclistes, hein,
ouais.
Jérôme.
Ouais. Attention, parce que dans la descente, là, ça bagarre aussi du côté de Pogacar et Vingegaard. On a l'impression que ça s'accélère quand même sous l'impulsion de Quintana il y a quelques instants. On ne fait pas de la luge d'été pour ce qui est de Vingegaard et Pogacar. On est bien sur le vélo.
Oui, et ils ont bien failli s'empaler sur un parapet tout à l'heure. Aïe. Dans un virage à droite. droite qui a été un petit peu raté. C'était un virage en plus très serré et qui finissait par, en se resserrant un peu. C'est bien passé, mais s'il y a Gamel, on a le maillot blanc et le maillot jaune dedans et Quintana.
Toujours se méfier des virages à droite. Allez Christophe, c'est à toi.
Il est 15h59 quasiment, les infos de 16h arrivent dans un instant. On se retrouve juste après pour les deux dernières ascensions de ce Tour de France 2022. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.